voie de service, mercredi 29 août 2018. Bonjour, mon nom est Isabelle Falardeau. Je suis heureuse de vous retrouver après une semaine d'absence. Merci beaucoup, les gars, d'avoir tenu le fort.
Bienvenue.
un petit fort. Mais... Je suis donc accompagnée de Daniel Lachance.
Bonjour.
Et Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Et puis, aujourd'hui, moi, je vais vous... C'est la rentrée. Alors, je vais...
Ah,
j'ai
pas
deux...
déjà?
Ben, moi, je le vis pas vraiment, là, okay, avec deux
ben,
grands-enfants. Mais c'est dans l'air, n'est-ce pas? Et les métros vont être bondés, les autoroutes vont se remplir, et puis tout ça. Et donc, c'est ça, j'ai trouvé deux articles sur le thème de l'éducation. Un établissement secondaire dans un ancien pensionnat autochtone et l'indigénisation des universités au Canada. Et de votre côté, Daniel, vous allez nous faire un tour, hein?
J'ai plusieurs articles, mais j'ai pas encore choisi exactement lesquels. Disons la première partie.
Vous nous réservez la surprise.
Ouais. Ben, je vais vous parler quand même d'un criminel qui s'est vu refuser encore une fois la libération conditionnelle.
Ah,
je ne sais pourquoi tantôt, c'est quoi le rapport avec la musique?
C'est ça, vous allez apprendre ça tout à l'heure.
La musique adoucit les mœurs, je vous le dis tantôt. La deuxième partie, je vais choisir.
D'accord.
Je suis encore en train de. Je suis
alors,
continuez
à réfléchir. De votre côté, Serge.
Oui, le parc zoologique de Granby a célébré cet été ses 65 ans de sa fondation.
65 ans, quand
oui,
même.
Oui, déjà. Oui, depuis 1953, je vais vous parler de ça. Et également, steamers et chemins de fer. C'est au 19e siècle qu'a eu lieu la révolution des transports. Les chemins de fer et les bateaux, ben, ça a commencé. Ça a commencé la révolution industrielle. Un petit article sur ça.
Excellent, merci beaucoup. Je vais commencer tout de suite avec l'éducation et donc des établissements d'enseignement post-secondaire pratiquent l'indigénisation. C'est un article de la presse canadienne qui a été publié lundi le 27 août et que moi j'ai retrouvé sur le site de Radio-Canada. Cet été, alors que les étudiants se préparaient à retourner aux études, certains établissements d'enseignement post-secondaire apportaient des changements à leur curriculum dans le but d'y réduire le « legs » du colonialisme. Est-ce qu'on dit « legs » ou « legs » même s'il y a un « s » ».
Je pense que c'est « legs ».
Le « legs », hein?
Ça prend toujours
à chaque
un «
fois que je
l'ai
dit, je me legs fais la réflexion. «
Legs » c'est « jambes ».
Alors, merci beaucoup. Donc, le « legs » du colonialisme est de répondre au rapport de la commission de vérité.
Commission qu'on dit, oui.
Merci beaucoup,
Daniel. Et avant, c'était « colonialisme ».
Colonialisme, la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui date quand même de 2015. Hein, le rapport publié en 2015 contenait une liste de recommandations dont l'une demandait aux universités et aux collèges d'inclure les connaissances autochtones dans leur programme et de lever les obstacles à l'accès des étudiants autochtones à l'éducation. Depuis lors, certains établissements d'enseignement à travers le Canada ont créé de nouvelles initiatives sur leur campus en embauchant des éducateurs autochtones et en créant des programmes axés sur le savoir et la culture autochtone. Selon Olson Crow, un étudiant autochtone de l'Université Ryerson à Toronto, l'indigénisation consiste à incorporer des modes de connaissances autochtones et à accueillir des membres de la communauté autochtone. Cet été a été déterminant pour l'université, qui porte le nom d'Egerton Ryerson, un pionnier de l'éducation publique qui, selon la croyance générale, a contribué à façonner la politique des pensionnats au Canada. Des étudiants autochtones ont fait pression sur l'université pour qu'elle retire la statue d'Egerton du campus durant des années. Or, l'université a installé une plaque en juillet à côté de la statue qui précise le rôle d'Egerton dans le génocide culturel commis envers les Autochtones. M. Crowe affirme avoir rencontré l'administration de l'université à plusieurs reprises l'an dernier pour discuter du retrait de la statue. On parle souvent de ça, hein? Est-ce qu'on devrait enlever les statues? Est-ce qu'on devrait plutôt mettre de l'information pour expliquer le problème avec Ryerson? C'est une petite parenthèse, c'est que c'est quand même vraiment quelqu'un de très, très important pour l'éducation. Un des premiers qui a dit que l'éducation, c'est ce qu'il y avait de plus important pour une nation, ce qui est quand même une bonne chose d'avoir dit ça. Ça a influencé la création des programmes d'enseignement au Canada, mais malheureusement, c'est aussi lui qui a été un des instigateurs des pensionnats autochtones. Alors, donc, ils ont rencontré à plusieurs reprises l'administration pour discuter du retrait de la statue. Et bien que M. Crowe qualifie la plaque de « grand pas vers la sensibilisation », il précise que pour lui, la plaque n'est pas une solution de rechange au retrait de la statue. Cet été, Ryerson a lancé le Yellowhead Institute, le qualifiant de premier groupe de réflexion axé sur l'analyse des politiques et des lois touchant les collectivités de Premières Nations. Des Premières Nations, pardon. Ryerson a également entamé le processus de décolonisation de sa bibliothèque. Selon la bibliothécaire en chef de l'université, Carol Shepstone, il est important que toutes les universités s'attaquent au colonialisme. Cependant, son établissement est, selon elle, sous un poids supplémentaire à cause du nom de Ryerson. Ils ont comme une responsabilité de faire ça au plus vite. Mais qu'est-ce que c'est que la décolonisation des bibliothèques? Bien, par exemple, histoire autochtone est parfois classée dans la catégorie indien d'Amérique du Nord ou le mot indien dans certaines bibliothèques canadiennes. Alors, le travail d'élimination de ces termes est plutôt difficile car il existe des milliers de rubriques et de sous-titres qui prennent beaucoup de temps à changer, affirme Christine Bone, bibliothécaire à l'Université du Manitoba. Madame Bone affirme travailler sur un projet avec l'Association des archives du Manitoba pour trouver des solutions à ce problème. L'Université de la Saskatchewan et l'Université de l'Alberta ont déclaré qu'elles étaient également au tout début de la transformation des titres des œuvres et de l'histoire autochtone dans leurs bibliothèques. De nouvelles initiatives visant à accroître l'accès aux savoirs autochtones ont également été mises en place dans d'autres établissements d'enseignement postsecondaire au Canada. À l'Université St. Mary's à Halifax, l'établissement a déclaré avoir mis en œuvre diverses recommandations incluses dans un rapport de 2014 créé après la mort de Loretta Saunders, une étudiante inuite âgée de 26 ans à l'université. Depuis lors, un conseiller aux étudiants autochtones a été embauché et de nouveaux programmes universitaires consacrés à l'histoire autochtone ont été créés. À l'Université de la Colombie-Britannique, le nouveau Centre d'histoire et de dialogue des pensionnats indiens a ouvert ses portes en avril 2018. Un programme d'échange sera lancé cette année avec des étudiants autochtones de l'Université Wilfrid Laurier et de l'Université Syracuse dans l'État de New York. Trois étudiants de chaque université échangeront leur place tout en travaillant ensemble pour créer du matériel pédagogique autochtone. Et puis, l'Université McGill à Montréal s'est associée à la communauté Mohawk de Kahnawake pour offrir un programme de baccalauréat en éducation dans la réserve elle-même. Et en terminant, de son côté, l'Université de Regina offre un tout nouveau programme pour améliorer les compétences en rédaction et en recherche des étudiants autochtones du premier cycle afin de les encourager à poursuivre des études supérieures. L'Institut de recherche estivale autochtone a octroyé 3 000 $ à chaque étudiant, soit 10 étudiants autochtones et 9 étudiants non autochtones. C'est à vous, Daniel.
Oui. Premièrement, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire de naissance à ma conjointe. Oh. Je suis parti avant qu'elle se lève ce matin.
Comment s'appelle-t-elle?
Voilà, bonne fête, Dominique.
Bonne fête, Dominique.
Une bonne fête.
De la part de toute l'équipe ici. Bon. Donc, vous n'avez pas deviné encore de qui il s'agit?
En prison, est-ce que c'est un musicien célèbre?
Non, c'est pas un musicien célèbre.
Okay.
C'est quelqu'un qui a assassiné un musicien célèbre.
Ah!
Ah ouais.
Le John
Mark
Lennon?
Mark Chapman, l'assassin de John Lennon, restera en prison.
Ah.
Quelle surprise. L'homme qui a tué le légendaire Beatle le 8 décembre 1980 à New York. Ça fait quand même
un petit peu de temps.
Ouais. s'est vu refuser pour la 10e fois une demande de libération conditionnelle, a annoncé l'administration pénitentiaire américaine. Il y a presque 38 ans, Mark Chapman abattait John Lennon de 4 balles à l'entrée du Dakota Building, résidence de la rockstar à New York. C'est juste en face de Central Park.
Oui, c'est très bien placé.
Très beau building.
C'est assez impressionnant. C'est d'ailleurs le building qui avait servi au tournage du film Rosemary's Baby dans les années 60.
Ah oui,
60.
Ça, je savais. Je me souvenais pas de ça.
Le militant pacifiste, membre fondateur des Beatles, légende vivante du rock, mourait assassiné à l'âge de 40 ans. Donc, il aurait 78 ans bientôt. Quand même, hein? Le meurtrier s'est vu refuser pour la 10e fois une demande de mise en liberté conditionnelle, ont déclaré jeudi les autorités pénitentiaires new-yorkaises. Il va devoir attendre 2 années supplémentaires pour que les juges considèrent une nouvelle demande de remise en liberté, selon le département de correction et de supervision communautaire de l'État de New York. Dans une lettre, le panel de la commission écrit à Chapman que sa remise en liberté serait incompatible avec le bien-être et la sécurité de la société. Je ne sais pas comment il se comporte en prison, mais ça n'a pas l'air rassurant.
Mais c'est peut-être aussi, ça lui sauve peut-être la vie, parce que j'ai comme l'impression que si ce monsieur-là il sortait de prison,
Peut-être que c'est pour sa propre sécurité.
Son
Mark Chapman purge une peine de perpétuité parce qu'il avait plaidé coupable de meurtre au second degré lors de son procès en 1981. La liberté conditionnelle ne pouvait être qu'après 20 ans de sûreté, c'est-à-dire depuis l'année 2000. Toutes les 2 ans depuis, ses demandes de libération ont été chaque fois déboutées par les juges. Chapman est retenu au centre de correction de Wende, ou W-E-N-D-E, je ne sais pas si c'est Wende ou Wende, en tout cas, à Alden, à New York, depuis 2012, date de son transfert d'Attica à une 20aine de kilomètres. Ironie du sort, sur l'album Sometime in New York City, en 1972, John Lennon avait composé une chanson sur cette même prison, intitulée Attica State. Je ne connais pas, là, mais elle fait référence aux émeutes qui s'y étaient produites en 1971. Yoko Ono, la veuve de l'artiste britannique, maintenant âgée de 85 ans, est fermement opposée à la libération conditionnelle de l'assassin de son mari. On se demande pourquoi. Ouais. Un peu rancunière, quand même. Elle avait précédemment affirmé qu'il représentait toujours un danger pour elle, ses 2 enfants, et le public et lui-même. L'ordre et lui-même, comme on disait tantôt, probablement que c'est un danger pour lui-même s'il sort de là.
Ben oui, c'est ça. Bon. Parce que c'est très, très émotif,
J'imagine qu'il y a encore... Lors de son audience pour demande de mise en liberté en août 2016, Chapman s'était décrit comme étant, à l'époque du drame, un sociopathe avec une faible estime de soi et des pensées suicidaires, hanté par l'idée de tuer Lennon pour devenir célèbre.
C'est spécial. Ça
fonctionnait. Ouais, ça servait la célébrité d'un autre, le tuer pour devenir célèbre. C'est un peu tordu. Il a affirmé alors, j'étais obsédé par une chose, c'était le tuer pour que je puisse devenir quelqu'un. 35 ans plus tard, je vois quelle horrible décision c'était et à quel point c'était égoïste. En 1980, l'ancien membre des Beatles, alors âgé de 40 ans, fait son grand retour musical et sort en novembre l'album Double Fantasy. Le 8 décembre de la même année, il retourne à son domicile dans l'Upper West Side de Manhattan après une session d'enregistrement. Chapman l'attend dehors et tire sur lui à 4 reprises devant sa femme Yoko Ono. Après son crime, il attend patiemment l'arrivée de la police, tenant L'attrape-cœur, un roman de J.D. Salinger, dans sa main. Il déclarera par la suite que son geste était écrit dans ce livre. Ça rappelle un peu Charles Manson qui avait tué toute la famille en disant que c'est une chanson des Beatles qu'il avait, en tout cas. Il y a du monde un peu tordu. À l'époque,
c'est le moins qu'on puisse dire.
À l'époque, ce meurtre avait choqué le monde entier et toute la génération des années 60 qui avait grandi au rythme de la Beatlemania.
Get yourself together, darling. Instant de Karma, John Lennon.
Merci beaucoup. Maurice, c'est Maurice Bolduc à la mise en onde en remplacement de Jean-Sébastien qui s'occupe de son tout nouveau petit bébé. Alors, c'est à vous, Serge. Vous allez nous faire, faire un voyage dans le temps.
Oui, oui. Le zoo de Granby. Alors, c'est un article dans la presse de dimanche, le 26, de Stéphanie Morin et Martin Chamberlain. En 1953, fondation du zoo de Granby par le maire de l'époque, Pierre-Horace Boivin. Oui, ah, vous savez ça?
Ben oui, je suis né à Granby.
Ah, ben oui.
Quelques années après, d'ailleurs, je sors peut-être de là, je ne sais même pas.
Le monsieur Boivin profitait de ses voyages pour acquérir ou échanger des animaux qu'il hébergeait alors dans une ferme. Le prix d'entrée, savez-vous ce que c'était? Et combien c'était?
Ça, je ne me souviens pas, mais je ne sais pas s'il y a plus tard dans l'article. Je ne vais pas voler le punch, mais j'en parlerai tantôt.
D'accord. Mais en 50...
Je ne sais pas, 5 cents, 10 cents.
Augmente un peu,
une pièce. Oh, mais ça ne fait pas si longtemps que ça, quand même. Je retourne, je retournais il y a 100
ans. C'est quand même au siècle dernier.
Oui, non, c'est, non, ben, c'est, oui, c'est au siècle dernier, au 20e siècle.
On parle de 25 cents.
Ah ben, quand même, je ne sais pas si loin que ça, 25 cents.
C'était le droit d'exiger, le droit d'entrée exigé en 1954 pour les adultes. Les samedis et dimanches seulement. Donc, le reste de la semaine, c'était fermé, à ce que je conclue.
Ou peut-être que c'était gratuit.
Oui, non, mais pas
bien. Ouais, après, c'était ouvert au début seulement, la fin
non,
de semaine.
Non, oui, probablement. Hey, ça, on est loin de ça aujourd'hui. Ouais, ouais. Hein? Il faut y aller la semaine si on ne veut pas que ça soit complètement débordant de monde.
Ouais, et même, il y a des bouchons sur l'autoroute, apparemment.
Oui,
ouais,
ouais,
on va le voir un peu plus loin, oui. Mm-hmm. Cette année-là, donc 1954, le zoo déménageait à son emplacement actuel. En 1957, le prix d'entrée était majoré à 40 cents.
Grosse augmentation, quand même.
Ça a fait, d'ailleurs.
Mais il y avait peut-être 50% plus d'animaux.
En 57, le zoo comptait quand même 400 bêtes.
Déjà,
ouais,
quand même.
57, ouais. Mm-hmm.
Est-ce qu'on nous dit plus loin combien il y en a aujourd'hui?
Oui, oui, je vais tout vous dire.
D'accord.
Ça.
D'accord. Alors, on se rappelle de ce 400.
Oui, oui. Oui.
En 57.
En 1955, année marquante.
Oui, je suis né en 55.
Ah bon, voilà.
Voilà.
Ah ben vous avez pas pu assister à la parade d'abord.
Non. Ben, je m'en souviens pas, en tout cas.
Une parade. Alors, arrivée au zoo par bateau puis par train, de la jeune éléphante Ambika, offerte par Nehru, alors premier ministre de l'Inde.
Ah oui.
L'homme répondait ainsi à la demande, arrivée par courrier, d'un enfant de 5 ans.
Qui résidait
à Granby. Ben oui. Le jour de son arrivée, elle a déambulé dans la ville devant des dizaines d'écoliers en congé pour l'occasion. Peut-être que Daniel était dans sa poussette
J'étais,
et sa
ouais,
maman.
J'ai,
peut-être
j'ai
que c'est votre grand frère qui avait écrit.
Non, j'ai pas de grand frère.
Non.
Cousin, peut-être.
Pour remercier l'Inde de ce cadeau d'une demi-tonne, le maire Boivin a envoyé en Inde un couple de castors.
Ah! Un échange culturel.
Deux cinq sous.
Ouais,
deux cinq sous.
Ouais. Et l'éléphante a voyagé à bord d'un wagon du Canadien National. Mumba le roi. L'année 1961 marque l'arrivée du premier gorille mâle au Canada. Son nom, Mumba.
Ouais, ça, je me souviens, par exemple.
Oui?
Oui, oui.
Je ne sais pas pourquoi, quand vous avez dit Mumba le roi, je pensais que c'était un lion.
Non,
un lion, puis Mumba.
Ouais. Le gorille, c'est ça ce qui est vraiment particulier. Le gorille des plaines, né au Cameroun, sera élevé au milieu des humains dans la famille Charon de Granby.
Ah oui?
De l'âge de 14 à 30. Moi, j'ai une photo ici dans la cuisine. La dame fait sa vaisselle, là, puis...
C'est Mumba qui essuie,
ouais.
Ouais,
ouais. Oui, il est dans sa chaise haute.
Non, il est dans sa chaise haute, ouais. Il restera aux zoo jusqu'à sa mort en 2008, à l'âge vénérable de 48 ans.
Quand même.
Ouais, c'est bien, c'est vieux.
Hein, ouais.
Il a été de loin l'ambassadeur le plus célèbre du zoo. Sa dépouille fait désormais partie de la collection du Musée canadien de la nature à Ottawa.
Ah, bon, moi, j'ai peut-être dû le voir.
Ouais. 1963, Mumba. Première naissance d'un hippopotame au Canada. Le bébé pesait 18 kilos à la naissance. La mère, elle, sirène, pesait 1590 kilos.
Ouf.
Selon la presse...
Ça prend une grosse balance hein, pour
ouais.
peser ça.
Oui, oui, oui. Selon la presse, cet heureux événement a incité le zoo à étendre ses heures d'ouverture à 7 jours sur 7 pour toute la saison. Donc, de 53 à 63, ils ont été ouverts seulement la fin de semaine.
Oui, oui, oui.
Pardon, ensuite, 1965, le zoo compte 131 espèces différentes, dont 8 chats siamois et 2 chiens esquimaux. Aujourd'hui, le nombre d'espèces a dépassé 230.
Allez, ça, mais c'est les espèces, ouais. C'est ça, ouais, donc le nombre d'animaux, ça doit être...
Oui. Attention au fil, pourquoi? Dans
au
quelle occasion?
Fil?
Ouais. Quel animal qui est très, 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 très haut, qui a un très...
Ah, les girafes.
Fou, la girafe.
Oui, oui, ah. oui. En la transportant, ouais, ouais. J'imagine qu'ils ont dit...
Le transport de la girafe... le transport de oui, la girafe... Un peu de sérieux, là-bas.
Sérieux,
oui. Daniel nous mimait une girafe qui s'accroche dans une corde à linge et qui...
Ça, si on fait livrer une girafe pas de tête, à un moment
donné. Ou ça se fait électrocuter, la pauvre bête. Hein.
Oui.
Le transport de la girafe Berthe en août 1960 exigeait certaines précautions. La dame mesurait tout de même près de 4 mètres de haut. Voilà, voilà.
C'est un petit peu plus grand que moi, ça.
Oui. 1980. Sur la scène politique canadienne, Cornelius, le rhinocéros du zoo, est nommé chef à vie d'un parti politique.
Il était très ému.
Ah, c'était quoi? C'était le parti rhinocéros?
Parti rhinocéros.
Ben oui, j'ai voté pour eux en 88.
Seule formation politique qui promet de ne jamais tenir ses promesses. Le parti remportera quand même 121 000 voix à l'élection fédérale cette année-là, un record.
Quand même. En quelle année on parle? Là,
1980.
80.
Oui, oui, bon. Oui.
Ah, l'année du référendum.
Oui. Alors, une dame, Givette, une mère de famille nombreuse, est dans le Guinness.
Ah.
Givette, le bois femelle du zoo, entre dans le livre Guinness des records en 1986. Bon, écoutez, restez, pas de panique tout le monde. La raison, c'est 75 rejetons nés en une seule portée.
95 en... Mais c'est des œufs,
75,
ça.
75,
j'exagère
pas, là. Et elle récidive en 1987 avec une portée de 78 serpentaux.
Fait qu'elle a battu son propre record.
Elle a battu son propre record, oui, oui, oui.
Mais qu'est-ce qu'on fait avec 78 serpents?
Une chance que les serpents n'allaitent pas parce que ça...
Ouais, là, ouais. En 1999... Inauguration en juin du parc aquatique Amazou, réalisé au coût de 6,5 millions.
Ah oui, hein? Mais c'est très, très populaire. Ouais. Surtout cet été, il y a dû avoir beaucoup de gens
au
Amazou.
C'est ça qui cause des bouchons sur le
toit.
Selon La Voix de l'Est, la nouvelle attraction du jardin zoologique a largement contribué à faire passer le nombre de visiteurs de 328 000 en 1998 à... 454 000 en 1999.
C'est une grosse augmentation.
Un bond de près de 40 %. Le succès est tel que, le 20 juillet 2000, La Voix de l'Est publie un article sur une congestion monstre de 8 km de bouchons sur la route 139 pour entrer sur le site. Oui, c'est assez...
Mais je me rappelle d'être allée alors qu'il y avait les mardis avec un coupon chez Jean Coutu, je ne sais pas quoi, puis moi, je ne savais pas qu'il y avait ça. Puis on arrive cette journée-là, puis c'était un mardi, on se disait.
Non, mais,
il y avait du monde, là, c'est ça. Peut-être pas 8 km, mais pas loin de ça.
2004, début du grand projet de modernisation du zoo au coût de 38 millions. Les animaux seront désormais regroupés par habitat d'origine. C'est ainsi qu'est créée en 2007 la savane africaine, où se trouve la rivière aux hippopotames, ou le pavillon des éléphants. On inaugure aussi à grands frais un hôpital vétérinaire. 50 000, c'est le nombre de visiteurs qui ont découvert le zoo sous les flocons pour la première fois de l'événement, un zoo en hiver en 2007.
Ah oui, donc c'est pas ouvert, mais on fait un événement spécial. Mmh, mmh, mmh.
2017, création de Dinozoo, espace consacré aux dinosaures, avec 21 mastodontes grandeur nature, animés et installés sur un parcours extérieur. Depuis cette année, l'activité est bonifiée avec l'apparition d'une application mobile et l'utilisation de la réalité augmentée.
Oh, ça doit être vraiment chouette, ça, d'être parmi les dinosaures. Mmh.
Et maintenant, l'avenir. Les 5 prochaines années seront occupées aux eaux de Granby avec la construction d'un habitat plus grand pour les lions, qui seront visibles même l'hiver. La modernisation de l'espace des hippopotames et des rhinocéros aussi, l'arrivée de nouvelles espèces, dont des dholes, D-H-O-L-E-S, venus d'Asie. Je ne sais pas quoi ça ressemble.
Ah,
des bananes.
Ouais. Et la création d'un pavillon d'éducation à la biodiversité qui comptera notamment une salle d'exposition. Alors, on se revoit aux autres Granby.
Quand j'étais jeune, dans les années 60, jusqu'à l'âge de 14 ans, on pouvait entrer gratuitement aux zoos.
Ah oui?
Donc, c'est pour ça que je vous dis, les tarifications ont changé depuis. Là. Mais à l'époque, avec mes amis, on allait, quand on n'avait rien à faire l'été, on allait aux zoos. On pouvait aller fumer en cachette. Okay.
Mais il semblerait, juste une petite précision, il semblerait que le zoo est ouvert l'hiver depuis 2007. Là.
Ouais. Alors, pour ceux qui se posaient la question, le dôle, c'est un canidé qui ressemble un petit peu à un renard, d'après les photos de Wikipédia. Et c'est ce qui met fin à la première partie de cette émission. On vous revient après une courte pause. Merci beaucoup.
Vous écoutez Les Voix de service.
Toi, t'es nain, ne m'est-ce que nain. Jihad, Kutetayat, Mishta,
voix de service, on entendait Florent Volant, Mishta Mishkino.
Merci beaucoup et ça m'amène à vous parler d'un pensionnat autochtone recyclé. C'est encore un article que j'ai pris sur Espace Autochtone, le site de Radio-Canada, et qui est signé cette fois-ci Gabrielle Paul. Ça a été publié le 27 août également. Alors, la communauté Innu de Mashteuiatch, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a transformé le bâtiment d'un ancien pensionnat en école secondaire. Dans un lieu synonyme de génocide culturel, les jeunes issus des Premières Nations se réapproprient désormais leurs savoirs ancestraux. Et d'emblée, je vais juste partager avec vous quelques dates là, qui sont en encadré. Alors, l'éducation à Mashteuiatch en quelques dates. En 1960, le pensionnat de Pointe-Bleue ouvre ses portes. Il reçoit des enfants Innu, Atikamekw, Anishinaabe et Cree. En 1980, le pensionnat ferme, mais des élèves résident toujours dans les dortoirs. En 1987, Mashteuiatch offre son propre parcours secondaire pour les élèves en difficulté. En 1995, Kassinou-Mamou, l'école actuelle, accueille la première cohorte de première secondaire. En 1996, le pensionnat est rénové pour les besoins de Kassinou-Mamou. Et en 2015, Kassinou-Mamou diplôme sa première cohorte de cinquième secondaire. Et vous allez voir un petit peu plus loin pourquoi ça a pris 10 ans de secondaire 1 à secondaire 5, mais c'est parce qu'au début, c'était seulement le premier cycle du secondaire, donc il n'y avait pas de...
Il fallait attendre
qu'il y ait le prochain. Il fallait changer d'école. Ouais. Non, c'est ça. Et d'autre part, je vais tout de suite vous faire pratiquer un mot. Mm-hmm. Pekwakamiulnuach. Et plus tard, quand je vais le prononcer, on va voir si vous vous rappelez que ça veut dire... C'est le nom Innu qu'on donne aux Innu de Mashteuiatch. Pekwakamiulnuach. Alors voilà, c'était le petit Innu 101 d'aujourd'hui. Donc le pensionnat de Pointe-Bleue a été la dernière école du genre à être fermée au Québec en 1980. Ça continue jusqu'en 1996, mais dans d'autres provinces. Près de 40 ans plus tard, le pensionnat est devenu l'école secondaire Kassinou-Mamou, qui signifie « tous ensemble » en langue Innu. Dans un lieu où on a essayé de nous enlever notre culture, on la maintient en vie. Répète à qui veut bien l'entendre la directrice de Kassinou-Mamou, Mélissa Launière, rencontrée en plein brouhaha de la rentrée scolaire. À l'instar de Washak Makmanutenam, qui tient le festival Innu Nikamou sur le site où se trouvait anciennement le pensionnat, les autres communautés autochtones du Québec ont toutes choisi de détruire les bâtiments qui abritaient des pensionnats. Nous formons les ambassadeurs des Premières Nations en célébrant le savoir millénaire de nos ancêtres, peut-on lire sur le site web de l'école secondaire. Nos jeunes sont fiers d'être Pekwakamiulnuach, croit la directrice. Hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Des Innu de Mashteuiatch. Les jeunes parlent de leur culture, ils connaissent leur culture, ils sont impliqués dans la communauté. Madame Launière insiste sur le caractère positif de son école, malgré le passé sombre des lieux. C'est important de ne pas oublier et de l'enseigner à nos jeunes, sans oublier que nous devons aller de l'avant. Professeur depuis les débuts de l'école, en 1987, François Gill a fréquenté le pensionnat de Pointe-Bleue dès l'âge de 8 ans. Contrairement au pensionnat Atikamekw, M. Gill rentrait chez lui le soir et côtoyait quotidiennement sa famille. « Je me mets à la place de ceux qui quittaient leur famille pour plusieurs mois. Je comprends que c'était difficile pour eux. J'ai été témoin de choses que je comprends mieux aujourd'hui. » Lorsqu'il pense au chemin qu'a parcouru l'école, il se réjouit. « C'est un beau défi qu'on a relevé. Nous avons fait du positif avec du négatif. » L'école Kassinou Mamou adapte les programmes du ministère de l'Éducation à la réalité des Pekukamiulnuach. En plus des cours de langue traditionnelle, les cours d'histoire, de géographie, d'art et d'éthique et culture religieuse contiennent des éléments culturels et historiques propres à Mashtoyach. Ce ne sont pas toutes les communautés qui font ça, souligne Mélissa Launière. Selon elle, ce qui rend Kassinou Mamou encore plus unique, c'est le programme des sorties en territoire. Deux fois par année, les jeunes peuvent partir une semaine en forêt avec des enseignants et des transmetteurs culturels de la communauté. Pendant ces semaines, ils apprennent le mode de vie traditionnel, les méthodes de chasse et la fabrication d'outils. D'abord un projet marginal, les sorties en territoire font maintenant l'objet d'un véritable programme éducatif. Nous avons balisé les sorties pour qu'il y ait une évolution dans l'acquisition des savoirs. Sur les 90 élèves qui fréquentent l'école chaque année, une cinquantaine d'entre eux participent aux sorties en territoire qui sont désormais un incontournable. Les jeunes ont toujours hâte d'y aller, ça on peut s'en douter. Ils n'ont même aucune difficulté à se lever à 4h ou 5h du matin pour aller à la chasse, même s'ils sont adolescents. Certaines écoles, membres du Conseil en éducation des Premières Nations, le CEPN, souhaitent maintenant appliquer ce programme dans leur communauté. Nous avons été approchés par d'autres écoles qui souhaitent appliquer le programme des sorties en territoire chez eux, confirme la directrice. Le conseil de bande, fervent défenseur de Kassinou Mamou, compte trois conseillers qui ont fait leur secondaire à cette école. L'un d'entre eux, Stacy Bossum, y a étudié de 95 à 98. À ce moment-là, Kassinou Mamou offrait seulement le premier cycle du secondaire. « Je pense que venir à l'école dans la communauté permet aux jeunes de développer un sentiment d'appartenance », croit le conseiller dont la mère a fréquenté un pensionnat. Le cursus unique de Kassinou Mamou n'est pas son seul attrait. Le petit milieu que l'école procure est sécurisant pour bien des jeunes qui choisissent de la fréquenter. La moyenne des présences à l'école secondaire est de 80 % et les taux de réussite en français, en mathématiques et en anglais se situent tous au-dessus de la note de passage de 60 %. Ce n'est pas tout le monde qui peut passer du primaire à Mashtoyach et aller dans une grosse école. Beaucoup décrochaient lorsqu'il était temps d'aller à Robertval en secondaire 4. Pour Kenya Belmar-Boucher, une Atikamekw de Wemutasi, venir à Kassinou Mamou était le gage de sa réussite. Maintenant, en cinquième secondaire, elle allait à l'école de Latuk avant d'arriver à Mashtoyach l'an dernier. « Mes notes se sont vraiment améliorées depuis que je viens ici. Les professeurs ont plus de temps pour moi. » Et je termine l'article avec cette citation de la directrice de l'école. « Oui, on a la culture. Oui, on a la langue. Mais nos jeunes sont bien dans leur école aussi. » Alors, on revient avec vous, Daniel?
Oui, oui, je vais vous
parler. Vous allez nous parler d'une grande, grande chanteuse.
Oui, vous saviez, je ne vous apprends rien en vous disant qu'Aretha Franklin est décédée récemment. Et je vais vous apprendre peut-être quelque chose en vous disant que Stevie Wonder et Jennifer Hudson vont chanter à ses funérailles.
Ah non, ça je ne savais pas.
Et oui, l'enterrement de la diva de la soul ce vendredi 31 août, donc dans deux jours, sera privé. Mais plusieurs stars doivent y chanter et des personnalités de marque, comme les anciens présidents des États-Unis Bill Clinton et Barack Obama, y seront également attendus. Je ne sais pas si Donald Trump va être présent aussi, mais bon. Alors que les funérailles seront réservées aux proches d'Aretha Franklin et à certains invités de marque, plusieurs milliers de fans de cette native de Détroit sont attendus au musée de l'histoire afro-américaine de la ville. Le corps de la reine de la soul, disparu le 16 août à 76 ans, y reposera mardi et mercredi. Quant à l'enterrement de la star américaine, il se tiendra en fin de semaine, le 31 août, dans la ville de son enfance. Elle reposera au Woodlawn Cemetery, près de sa famille. Aretha Franklin est restée attachée toute sa vie à Détroit. Elle y avait fait ses débuts dans la chanson, se produisant dans l'église où son père prêchait. Un office y a été célébré dimanche le 19 août pour lui rendre hommage. Aretha Franklin était aussi familière des plus grandes célébrités que... Pardon. Je recommence ça, j'ai de la gorge un peu. C'est de l'émotion, probablement. Aretha Franklin était aussi familière des plus grandes célébrités que des ouvriers de Détroit. Après son décès, la cité était en deuil. Les habitants ont insisté sur la grandeur d'âme de la chanteuse qui n'a jamais abandonné Détroit pour Los Angeles ou une de ces villes qui attirent les stars du show business. Un choix qui touchait les résidents de la capitale du Michigan. Au cours de sa longue carrière, la diva a collaboré avec de nombreuses autres légendes de la musique. Elle a été une source d'inspiration pour beaucoup, de Quincy Jones à Elton John. Les témoignages d'estime ne manquent pas. La famille de la défunte vient d'annoncer que 19 grands noms de la musique seront présents aux funérailles d'Aretha Franklin, le légendaire Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Ronald Isley, Faith Hill ou encore Chaka Khan vont monter sur la scène du Greater Grace Temple pour un centre pour un pardon je recommence ça.
Le Greater
Grace Temple.
C'est ça qui vous a défait un peu.
Oui. Le Greater Grace Temple pour un concert d'adieu à la Dame de la Soul. Stevie Wonder était un ami de longue date d'Aretha Franklin. Tous les deux devaient enregistrer prochainement un morceau inédit.
Ah, oh, c'est dommage.
Ouais,
ça
n'a pas eu du temps. Jennifer Hudson, qui a d'ores et déjà marqué le monde du R&B, chantera elle aussi. Elle avait été choisie par Aretha Franklin pour incarner son personnage dans un biopic sur lequel elle travaillait avant sa disparition. Stevie Wonder partage la scène avec Aretha Franklin dans une atmosphère électrique en 2005. Autre invité célèbre, l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, on l'a dit tantôt, assistera à la cérémonie. Les époux Clinton étaient tous deux de grands admirateurs de la chanteuse. J'ai un autre article que j'aimerais vous lire un petit bout parce que je ne m'étais pas imaginé l'ampleur. Je savais qu'Aretha Franklin était une chanteuse très connue, très tout ça, chanteuse, mais il me semble qu'on se souvient de 4-5 chansons.
Effectivement, oui.
Quand même, elle a accumulé une petite fortune assez impressionnante. Un article que j'ai trouvé dans le Figaro qui a été publié le 23 août. Aretha Franklin, ses fils vont se partager un héritage estimé à 80 millions de dollars.
Quand même. Oui.
C'est une interprète, là. C'est pas Paul McCartney, c'est pas elle qui écrivait ces chansons-là.
Elle a resté à Détroit. Les maisons sont moins chères qu'à Los Angeles,
peut-être.
Je pense.
Elle a économisé un peu.
Mais non, effectivement, c'est...
Donc, 80 millions de dollars, voilà la modique somme que la chanteuse américaine Aretha Franklin a ramassée au cours de sa carrière. Hier, le site américain TMZ révélait s'être procuré des documents juridiques prouvant que la Lady Soul s'était pourtant envolée sans produit de testament. Donc, ça risque de faire un peu comme la succession de Prince, là, qui est encore un peu compliquée. Oui. Aretha Franklin est la mère de 4 enfants, tous des garçons. Elle met au monde son premier fils alors qu'elle a à peine 13 ans. Fruit de sa relation avec Donald Burke, qu'elle connaît de l'école. Elle le nomme Clarence, comme son propre père. À peine 2 ans plus tard, naît Edward, qui porte le nom de son géniteur, Edward Jordan. À Ted, né en 1964, elle donne aussi le nom de son époux de l'époque, White. Celui-ci fut un temps le manager de la star. Elle donne naissance à son dernier fils en 1970, nommé Kekalf, K-E-C-A-L-F. Il est issu de son union avec Ken Cunningham. Selon la loi en vigueur dans le Michigan, sans succession établie par Aretha Franklin, ses 4 descendants vont se partager l'héritage à parts égales.
Ça, de la belle musique, hein?
Oui, quand même. Mm-hmm.
Ça donne envie de danser. Et puis, Serge, mais c'est à vous maintenant.
Oui, alors c'est un article que j'ai pris dans la revue L'Histoire du monde de Larousse.
Vous allez nous parler des transports au début de l'ère industrielle.
Oui, steamers et chemins de fer qui ont marqué la révolution des transports. Alors, au début du 19e siècle, les inventions techniques ont d'abord révolutionné la production industrielle, mm-hmm. avec la mise au point de nouvelles machines mues par la vapeur, qui ont eu pour effet d'améliorer très rapidement la productivité dans les mines et dans les ateliers de textile, plus particulièrement encore dans les manufactures de coton.
Mm-hmm.
Mais bientôt, les inventeurs s'appliquent à domestiquer la nouvelle énergie pour l'employer également dans le domaine des transports, qu'ils soient maritimes ou terrestres.
Il fallait bien acheminer toute cette marchandise oui. qu'on mmh. fabriquait rapidement.
Mmh. Oui, oui, oui. Bien avant que la propulsion motorisée ne s'impose sur Terre avec le chemin de fer, c'est sur les rivières que, dès la fin du 18e siècle déjà, ont été réalisées les premières mises à l'eau de véhicules mus par des moteurs à vapeur. La première tentative mondiale que l'on doit au Français Claude François, marquis de Jouffroy d'Aban.
C'était pas un chanteur,
oui,
ça?
Oui, Clou-clou.
Marquis de Jouffroy, d'accord.
Oui, marquis de Jouffroy d'Aban.
D'Aban, ah,
d'Aban.
Oui.
Est un succès. En 1783, son pyroscaphe, un bateau à vapeur à roue à aube, navigue sur le Doubs, mais cette réussite restera sans lendemain. Ce travail de pionnier est poursuivi aux États-Unis, où le besoin s'en fait sentir à la fois sur les rivières, qui sont un axe naturel de pénétration dans les régions encore peu explorées, mm-hmm. et sur mer, où les premiers essais de navigation sont effectués. En 1809, l'Américain John Stevens lance le Phoenix sur les eaux de l'Atlantique, et en 1811, le premier steamer navigue sur l'Ohio, un des grands fleuves de l'intérieur, affluent du Missouri.
Mm-hmm.
La marine à voile est rapidement concurrencée par la motorisation et la construction navale traditionnelle en bois est condamnée à être remplacée par le fer et l'acier.
Mais c'est ça, ça a vraiment révolutionné
oui.
le mm-hmm. transport parce
oui,
que
oui.
vraiment, entre la voile puis la vapeur, on dit à voile et à vapeur.
À voile et à vapeur, oui, oui.
Ça ne veut pas dire ça du
non,
tout.
Non, non, non.
Mais c'est ça, c'est vraiment une très, très grande différence, effectivement.
Mm-hmm. Oui.
Oui. Mais...
Je parle des bateaux, là.
Ah, okay, okay. À voile et à vapeur avance plus vite que juste par les rames.
Oui, c'est oui, ça. C'est aussi. Encore mieux d'avoir les deux, je pense. Ça donne plus de flexibilité.
La puissance atteinte par les moteurs contraint les armateurs à se lancer dans la construction de bateaux en fer capables d'effectuer des voyages au long cours en haute mer. Ainsi, dès 1822, les Américains lancent le premier navire en fer, l'Aaron Mambie. De 1838 à 1844, Américains et Britanniques se livrent une concurrence navale et lancent respectivement l'Ironsides, le Queen of the East et le Great Britain, dotés d'une propulsion à hélice. Ces bateaux, capables de relier l'Europe à l'Amérique et aux Indes, battent des records de vitesse qui laissent loin derrière eux les temps réalisés jusqu'à là par les grands voiliers. La mondialisation du commerce qui est alors en cours a trouvé là un premier outil efficace. Deux petits exemples. Le navire anglo-américain à propulsion mixte, le Great Western, relie l'Europe à l'Amérique en 15 jours en 1838.
15 jours,
ouais.
quand même.
Et jaugeant 1320 tonneaux, il transporte une soixantaine de passagers. Il était mixte parce qu'il y avait les voiles et la vapeur. Alors, quand le vent tombait, ben là, on faisait partir la vapeur. Et...
Mm-hmm.
Un autre, le premier véritable...
Quelqu'un qui a l'esprit mal tourné autour de la
le premier géant des mers. Vraiment, puis c'est vraiment impressionnant. Le Great Eastern, lui, jaugeait 24 000 tonneaux et pouvait transporter, tenez-vous bien, 5 000 passagers.
5 000, quand même, là, oui, on est en business, là.
Oui, 1840.
Oui, oui.
Sauf qu'il n'a jamais transporté 5 000 passagers.
Il pouvait, mais il ne l'a pas fait.
Écoutez, en 1840, trouver 5 000 personnes qui veulent partir...
qui veulent payer le prix,
qui ont les moyens,
partir...
Oui,
qui ont les moyens, qui veulent partir des États-Unis pour aller
en
Europe,
Europe,
et qui veulent, après ça, 5 000 autres qui veulent partir de l'Europe pour aller aux États-Unis.
Oui, non,
5 000, là, tu sais, c'était...
Ouais,
et
beaucoup.
Les immigrants n'avaient pas beaucoup de sous, alors le coût devait être assez élevé, hein?
Mm-hmm.
Alors, le chemin de fer, lui, c'était une révolution. Si la locomotion sur terre, grâce à la vapeur, ne s'est développée massivement qu'après la locomotion sur mer, ce n'est pas par manque d'imagination des inventeurs ou des ingénieurs. Dès le milieu du 18e siècle, nombreux sont ceux qui s'intéressent à ce problème. Le plus célèbre d'entre eux est le Français Joseph Cugnot, qui met au point en 1769 un véhicule, le fardier à vapeur, mu par un moteur réalisé à partir d'une machine de Newcomen. Malheureusement, l'engin s'écrase contre un mur. Cette défaillance du système de freinage anéantit à jamais tous les espoirs de son inventeur. pour le moment, pas à ce moment-là.
C'est drôle, ça, quand on manque notre coupe, en plus, on détruit la patente.
Le principe sur lequel repose la locomotion terrestre est simple. Placer un moteur sur un support doté de roues et remplacer ainsi le cheval pour assurer la traction. Mais pour le véhicule ainsi constitué, pour que le véhicule ainsi constitué puisse se déplacer de manière autonome, il est nécessaire de l'équiper de machines à vapeur à haute pression, ce qui n'est pas encore techniquement possible pour les moteurs utilisés au 18e siècle en Angleterre. Il faut attendre 1801 pour que l'ingénieur anglais Richard Trevithick réalise une machine à vapeur de ce type et mette la première locomotive sur les rails. Ces derniers avaient été installés pour la première fois en 1765 dans des mines anglaises. D'abord en fonte, ils furent vite fabriqués en acier. La première grande expérience est effectuée en février 1804 au Pays de Galles, dans la fabrique métallurgique de Penydarren, dans le comté de Glamorgan. Il faudra toutefois attendre 1829 pour que la locomotive s'impose avec le modèle mis au point par George Stephenson. La Rocket, la fusée, cette locomotive est la première à transporter des voyageurs. Avec la locomotive et le rail, tout est désormais en place pour le développement d'une activité qui sera déterminante dans la société moderne. Ainsi, l'essor de l'industrie ferroviaire se traduit immédiatement par une demande importante de produits sidérurgiques. Par le tracé de nouvelles voies de communication avec, pour corollaire, l'embauche massive d'un prolétariat itinérant, puis d'un personnel important pour l'administration et la maintenance, par l'établissement de véritables politiques d'investissement à long terme, sans oublier que le chemin de fer se révèle un outil efficace de centralisation politique et administrative, un instrument assez puissant pour remodeler le tissu économique et social des régions qu'il traverse. Parce qu'on relie Londres ou n'importe quelle capitale à des endroits très éloignés.
Ça brise les Allemands
pays.
Des régions dans une certaine mesure.
Enfin, il introduit des expériences nouvelles, des bruits étranges et surtout l'entrée dans l'univers de la vitesse. Et cela, même si les premiers trains ne dépasse pas, attention, roulement de tambour, 10 km à l'heure.
Oui, c'est pas très rapide.
C'est là que les premiers panneaux de limite de vitesse sont apparus.
Mais écoutez, dès 1850, là, ils atteindront quand même 100 km à l'heure.
Oh, ça a été rapide.
Oui, très, très. Les premiers réseaux ferrés, la construction organisée des premiers réseaux ferrés européens date de 1830 pour la Grande-Bretagne et la France, de 1835 pour la Bavière et de 1836 pour la Russie. En Angleterre, la croissance est rapide et le total des voies passe de 800 km en 1837 à 12 000 en 1852 en l'espace de même pas 20 ans.
Wow.
Le Second Empire en France constitue l'âge d'or de la construction ferroviaire avec l'application de la décision prise sous la monarchie de Juillet de réaliser le célèbre réseau en étoile dont Paris occupe naturellement le centre.
Naturellement.
Les inventions du quotidien, pour terminer, les années 1830 à 1840 sont également marquées par un extraordinaire essor industriel. Dans le domaine alimentaire, ce sont les premières applications des découvertes du français. Appert sur les conserves. D'autres inventions trouvent...
Oui,
D'autres...
à cette époque-là.
Monsieur Appert. Appert. D'autres inventions trouvent leur place dans la seconde moitié du siècle, comme la photographie, mise au point en 1826 par le français Niépce, la machine à coudre inventée en 1830 par un autre français, Timonier, le télégraphe électrique élaboré en 1837 par l'Américain Samuel Morse. Et voilà.
Et c'était vraiment tout. Ça devait être, on parle là d'aujourd'hui à quel point les technologies changent rapidement, puis c'est une époque formidable, mais les années 1830, là, c'était quelque chose. Hein,
il se passait
des choses. Et merci beaucoup, Serge. Peut-être que je peux terminer avec un court article, si j'ai le temps. Excusez-moi. Donc, c'est ça, en fait. C'est un court article qui est écrit pendant le Powwow cette fin de semaine à Grand-Sétaqué. Un article de Stéphanie Sinclair, publié le 25 août. Les organisateurs du traditionnel Powwow Mohawk de Canasetake ont pour la première fois rédigé les invitations en anglais, en français et en espagnol, dans le but de créer des liens avec les différentes communautés. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut maintenant regarder en avant. On veut établir des ponts avec les Blancs, mais aussi avec les autres communautés. Et une citoyenne d'Oka a aidé à traduire les invitations. Celle en espagnol avait pour objectif de s'adresser aux travailleurs agricoles de ce secteur des Laurentides. Et apparemment, sur près de 500 personnes présentes samedi, on comptait plusieurs participants d'origines diverses. Alors, si vous voulez la suite de l'article, c'est sur le site du Journal de Montréal, un pow-wow pour rassembler les différentes communautés. Et c'est ce qui met fin à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Maurice Bolduc, à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci Daniel Lachance, Serge Bradet. Moi-même, Isabelle Falardeau, je vous souhaite une bonne journée et j'espère à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir tout le monde.